C'est parti. Eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de la série Lifeguard, donc où on rencontre cette fois-ci des personnes soit qui sont professionnelles de l'orientation ou qui ont déjà trouvé leur voie et qui vont nous en dire plus sur leur parcours. On enregistre dans des conditions un peu particulières puisque on est au Festival de l'Apprendre qui est piloté par la Maison de l'Apprendre à Lyon. Et c'est une semaine qui est en fait dédiée à l'apprentissage, au futur de l'éducation et aux nouvelles compétences du 21e siècle. Donc merci. Merci à elle de nous avoir invités. Et aujourd'hui, je suis avec Farah de l'association Tu feras quoi plus tard et Hélène, mon sidekick, pour parler inégalité ethnique et raciale dans l'orientation. Avant de commencer, je voulais vous poser un peu la question que je pose à tout le monde avant de se lancer. Quand vous étiez plus jeune, vous vouliez faire quoi ou vous vouliez devenir qui ?
Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'idée de métier précise, parce que pour moi, le métier, ça a toujours été un concept assez abstrait, okay. Pour être tout à fait honnête. Mais j'avais quand même en tête d'avoir un métier en lien avec la parole, donc les métiers autour de l'enseignement, du journalisme m'ont toujours intéressée. Pour le premier, donc l'enseignement, je suis vite revenue sur ma position parce que je suis quelqu'un d'assez introverti et que l'enseignement, ça nécessite d'être en prestation, en tout cas dans le scolaire, de manière constante, et c'est très énergivore. Et pour le journalisme, j'en ai un peu fait de manière bénévole et bon, j'ai eu quelques freins par la suite qui ont fait que je suis également revenue sur ce choix.
Ok. Et aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ? Est-ce que tu as continué dans cette lignée ?
Alors moi, j'ai fait des études de droit et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai créé un cabinet de conseil en prévention de la corruption.
Ok.
Un sujet qui me passionne et donc je fais du conseil, de la formation et de la communication autour de ces sujets.
Ok, merci. Et toi, Hélène, que voulais-tu faire ? Que voulais-tu faire ou qui voulais-tu devenir lorsque tu étais plus jeune ?
Alors, quand j'étais plus jeune, j'aurais adoré être maîtresse d'école, exactement, et aussi coiffeuse. Je voulais combiner les deux. Et puis, un peu plus tard, au travers de lectures, notamment de bandes dessinées, je suis tombée en amour d'une jeune femme, enfin en tout cas dans cette BD. Je la trouvais absolument rayonnante, absolument géniale. Et j'ai eu envie d'être ingénieure en électronique.
Ok. Rien à voir avec aujourd'hui, donc.
Rien à voir. Aujourd'hui, je suis officiellement slasheuse depuis quelques mois maintenant et je combine plusieurs activités qui finalement ne sont pas tellement éloignées de mes rêves d'enfant puisque je travaille sur des sujets autour des ressources humaines, de la marque employeur plus spécifiquement. Je travaille également en tant que formatrice pour une association qui s'appelle Enactus et puis je suis enseignante. En tout cas, je transmets, je ne sais pas comment on peut appeler ce rôle, je transmets à de jeunes étudiants dans des écoles de communication plus spécifiquement. Voilà. Okay. Et puis peut-être pour l'aspect créativité, donc issu de la coiffure, j'ai toujours voulu faire quelque chose de mes mains. Donc je ne m'en sers pas aujourd'hui beaucoup dans ce slash, mais je crochette et je tricote.
Ok, voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup. Et pour revenir au sujet du jour, donc, qui sont les inégalités ethniques et raciales, plus spécifiquement dans l'orientation et dans le monde du travail, je voulais vous poser une question un peu inspirée de la question d'ouverture du podcast que vous connaissez peut-être, Kif Taras, qui, elle, demande aux gens qu'elles invitent comment elles se perçoivent. Et effectivement, aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent ne savent peut-être pas à quoi on ressemble, donc vous identifiez comment ?
Tu nous demandes une sorte de description, Apolline, pour nos auditeurs. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aurais eu envie de dire je suis une jeune femme, mais pas du tout. En fait, à ce stade, je peux dire que j'ai 45 ans, que je suis une femme plutôt grande. Alors je déteste ce mot racisé, issu des minorités visibles et autres, je trouve ça horrible. Donc en fait je suis juste Hélène, et je crois que le reste Je ne sais pas si le reste est vraiment intéressant. J'ai 45 ans, j'ai deux enfants. Je suis bien dans ma vie et dans ma peau et je fais plein de choses et je suis très heureuse. Après le reste, je trouve que très vite, on est embarqué dans des cases et je n'ai pas envie d'être dans une case. Donc voilà ce que j'ai envie de partager. Là, j'ai plein d'envie, j'ai plein d'énergie, je suis passionnée. Mais je n'ai pas envie de me décrire comme étant compétente dans tel domaine ou d'être... voilà, c'est pas moi. Donc il se trouve que je suis différente, mais au même titre que les autres le sont également. Donc voilà, je pense que...
Moi, j'ai opté pour une présentation plus traditionnelle, pas forcément pour rentrer dans des cases, mais c'est une question que j'aime beaucoup, cette question de Rokhaya Diallo dans son podcast. Donc moi, je suis une femme de 27 ans, cisgenre. D'origine maghrébine, donc algérienne de mes deux parents, qui sont pourtant nés en France. Je suis valide, et je trouve que c'est quelque chose d'important à souligner, parce qu'il y a une sous-représentation dans les médias de cette question-là, de la validité ou de l'invalidité, que je vis en grande métropole, donc je vis à Paris, et que j'ai toujours grandi dans un milieu plutôt urbain, donc avant en banlieue parisienne, que j'appartiens... en tout cas une catégorie sociale plutôt éduquée. Et ça, j'estime que c'est aussi des éléments à mettre en valeur. Le fait qu'on ait fait des études supérieures ou non, pas que ça nous mette sur un piédestal, mais c'est un critère pour moi à mettre en avant. Et que je suis passionnée par les questions d'égalité et d'équité dans la société, de justice sociale, tout ce qui est en lien avec la corruption, comme je l'ai souligné auparavant, et que je suis aussi féministe. Ça, c'est, bon, ça devrait être la base, mais je préfère le souligner.
Merci beaucoup. Et dans cette pour pousser un peu justement cette question plus loin, on avait beaucoup parlé dans les différents échanges qu'on a pu avoir avant l'enregistrement autour de nos origines respectives. Est-ce que vous, il y a un moment où dans votre parcours ou dans votre vie, on vous a... à quel moment vous êtes rendu compte que votre origine sociale ou ethnique pouvait être un frein dans votre vie? Je te vois hocher la tête. Ouais. je sais qu'on en a beaucoup parlé. T'aimes pas trop cette question, mais
non, c'est une vraie question. Alors moi, je m'en rendais pas compte en fait, mais très tôt, j'ai été plongée dans le bain. En fait, mon père, quand j'étais en primaire, m'a très vite dit : tu n'es pas blonde aux yeux bleus. Il faudra que tu travailles deux fois plus que les autres pour réussir. Et j'ai porté dans mon sac cette petite phrase pendant un long moment. Elle ne m'appartient pas. Pour autant, je pense qu'elle m'a façonnée quelque part et elle a fait celle que je suis aujourd'hui. Donc j'ai compris que j'étais différente à ce moment-là parce qu'il l'a souligné. Mais c'était finalement son stress, son angoisse. C'était pas le mien. Donc j'ai compris qu'il allait se passer des choses, mais je ne savais pas encore quoi. J'ai grandi donc avec ça. Après, je me suis aperçue que j'étais différente par le biais de mes cheveux, en fait, quand j'étais à l'école, où très vite, en fait, je sentais que c'était quelque chose qui questionnait. Moi, c'était pas un sujet. En tout cas, ça ne m'a pas empêché d'avancer à ce moment-là. Et puis, c'est revenu au moment où je me suis mise à chercher un stage, quand j'étais toute jeune adulte, enfin jeune diplômée, où là, je ne voyais pas de gens qui me ressemblaient. Et je me suis dit, mais où sont ces gens, en fait? Est-ce qu'ils ont disparu de la circulation? Est-ce qu'en fait, on n'a pas envie de les montrer? Il n'y a pas d'incarnant, donc je ne me retrouve pas. Il n'y a pas de semblable. C'est très compliqué pour moi, du coup, parce que je ne sais pas trop où aller. Je ne sais pas si j'ai le droit d'y aller. Je ne sais pas si c'est envisageable ou pas, s'il y a une forme de censure. C'était assez compliqué et ça se traduisait sur les sites internet, les sites de recrutement, les publicités, etc. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui fait que je ne suis sans doute, probablement, je ne suis pas comme les autres, ou en tout cas comme la plupart des gens. Voilà, donc ça m'est revenu par l'extérieur. Moi, quand je me regarde, je me vois pas différente. Enfin, en tout cas, je me vois comme je suis, mais je me dis pas, tiens, t'es noire ou t'es métisse ou t'es je sais pas quoi. En fait, c'est un non-sujet pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, donc je ne le vois pas si on ne me met pas le sujet sous les yeux. Voilà. Donc, ce sont les autres qui m'ont mis ce sujet-là. Qui l'ont mis en avant. Et puis j'ai quelques aventures rocambolesques du quotidien, en fait, au-delà de la sphère professionnelle, de comme beaucoup, je suis dans les transports en commun, je suis adolescente, je suis avec ma maman qui est blanche de peau, je me fais contrôler, elle pas du tout.
Okay.
On est toutes les deux à côté et on va répliquer que c'est un contrôle aléatoire, ma mère est à côté, il n'y a pas de raison que je me fasse contrôler. Je sors du train de retour d'un séminaire en Belgique, j'ai mon sac, je suis fatiguée, je sors et je me fais arrêter par la douane volante.
D'accord.
J'ai pas de raison de me faire arrêter par la douane volante. Et là, on va me dire, c'est un contrôle aléatoire.
Ok.
Ok.
Oui, ça fait beaucoup d'aléatoires. Oui, oui.
Exactement.
Je vois ce que tu veux dire. Farah, je te vois qui hoche la tête. Est-ce que toi aussi, c'est venu de l'extérieur, comme disait Hélène ?
La question des cheveux, c'est assez intéressant, parce que j'ai un rapport assez similaire. Moi, je vais distinguer l'ethnique et le social. Moi, d'un point de vue ethnique, la première fois où j'ai ressenti, en tout cas, une forme de discrimination, c'est plutôt de l'intérieur via des mécanismes de protection. C'est, bon, je vais faire de l'audiodescription, mais j'ai les cheveux bouclés. Et toute mon enfance et adolescence, moi, mes parents et ma famille m'ont fait comprendre qu'il fallait se lisser les cheveux parce que c'était plus présentable. Et c'est comme ça qu'on se présentait à la société de manière convenable. Qu'avoir les cheveux bouclés, c'était être négligé et ne
D'accord.
pas se conformer à ce qu'on attendait de nous en société. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai intériorisé et pendant très longtemps. Et j'ai arrêté de me lisser les cheveux pour des raisons totalement... D'opportunités de prépa où on n'a pas le temps de se lisser les cheveux parce qu'on préfère dormir que de se lisser les cheveux, très clairement. Et donc ça a été un premier critère de discrimination, mais par l'intérieur. Et pour l'extérieur, ça vient... en tout cas, le fait le plus marquant que j'ai, peut-être que c'est venu avant, mais c'est au lycée, j'avais de très très bonnes notes, ça se passait très bien, j'étais en région parisienne, enfin en banlieue parisienne, même chose, mais j'étais pas non plus dans une zone sociale très compliquée, c'était plutôt zone pavillonnaire, mais pour autant... au moment de faire les vœux pour Parcoursup, enfin pas Parcoursup justement, l'ancêtre de Parcoursup APB, donc je fais mes vœux et on me recommande une prépa parce que j'avais les notes et le profil pour. Donc je remplis les vœux assez innocemment en mettant des prépas en droit, économie et gestion parce que c'est ce que je voulais faire. Et donc forcément je mets une prépa parisienne en premier vœu. Et là, je présente mes vœux à mon professeur principal qui me dit « Ah, c'est très très bien, mais par contre, ton premier vœu, il va falloir le baquer parce que je ne suis pas certaine que tu l'aies parce qu'on vient d'un lycée du 93. Il vaudrait mieux que tu mettes en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième vœu des facs de secteur, des prépas du secteur, etc. » Bon. Ironie, j'ai eu mon premier vœu assez rapidement, mais c'est sûr que ça a été un signal, en tout cas de barrières qu'on pouvait se mettre via nos origines sociales supputées, en tout cas, par rapport au lycée d'appartenance.
Ouais, mais c'est marrant, non, pas du tout, mais lundi, j'en discutais avec des amis qui venaient aussi du 93, et elles m'expliquaient que pour APB, et pour en fait tous ses dossiers et ses CV, elle mettait l'adresse de sa tante qui habitait dans le 92 et non pas dans le 93 pour augmenter en fait ses chances tout simplement de déjà passer un certain screening. Donc c'est
véridique parce que moi dans la classe prépa dans laquelle j'étais, donc que j'ai intégré au lycée Turgot à Paris dans le 3e arrondissement, dans le Marais, il est vrai qu'il y avait très peu de personnes qui venaient de banlieue, encore moins du 93. Il y avait quand même une certaine proportion de boursiers, je crois que c'était de l'ordre de 6 ou 7, 8%. Bon, c'est déjà ça, hein. Mais c'est sûr que c'était pas en surreprésentation et qu'également, il y avait certains professeurs qui pouvaient avoir des poncifs sur d'où on venait et qui pensaient que nécessairement venir du 93, c'était de vivre dans un HLM avec 10 frères et sœurs, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et ça, c'est ce qui est véhiculé par les médias, donc on ne peut pas totalement leur en vouloir. Pour autant, c'est des stéréotypes qui n'aident pas à aller au-delà des barrières de l'orientation.
Complètement. Moi, j'ai vécu une expérience similaire, banlieue parisienne aussi, pas la même. Mais déjà à l'époque, alors qu'on a un certain nombre d'années d'écart, je vivais la même chose. Et à l'époque, je me disais comment je peux faire pour retirer mon adresse postale, faire en sorte que je vienne d'ailleurs. Et l'autre sujet, c'était ne surtout pas mettre ma photo. En fait, je savais que ça me desservirait. Alors, j'ai un prénom on ne peut plus classique. Mon nom de famille n'est pas forcément évocateur. Mais mettre ma photo, pour moi, c'était vraiment me tirer une balle dans le pied. Et donc, tant qu'elle n'était pas demandée et tant que ce n'était pas une action obligatoire, en fait, j'ai refusé de la mettre pour mettre toutes les chances de mon côté. Et alors moi, à contrario, sur l'aspect cheveux texturés, donc moi, j'ai les cheveux extrêmement frisés, et de l'interne, moi, mon père m'a toujours dit mais pourquoi tu touches à tes cheveux ? Pourquoi tu les défrises ? Pourquoi tu les laisses lisses ? Et je lui expliquais gentiment que c'était pas une question de renier ses racines ou autre, parce que ça lui faisait beaucoup de peine, mais c'était simplement pour m'intégrer dans une société qui voulait que, en tout cas moi dans ma croyance, qu'on soit non pas forcément blonde aux yeux bleus, mais à minima qu'on ait des cheveux lisses. Et c'était pas par praticité, c'était juste pour être comme tout le monde.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vrai que dans la préparation de justement d'entretien, on en avait beaucoup échangé. Et tu m'avais beaucoup parlé de l'importance de l'apparence dans ta famille. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot ?
Oui, justement, parce que moi, je pense, enfin, avec un peu de recul, que j'ai eu des parents qui ont fait en sorte qu'on ait certains codes, parce que eux aussi observaient bien que n'étant pas dans des milieux d'influence ou de pouvoir ou même de milieux classiques de bureau, qui nous ont en fait transmis une partie de leurs inquiétudes sur l'apparence qu'il fallait avoir pour s'intégrer. J'aime pas vraiment ce terme s'intégrer parce qu'on était totalement intégrés, mais en tout cas pour se fondre dans la masse, c'est plutôt ça. Et qui fait que moi, dès la plus tendre enfance, j'ai une mère qui m'expliquait que c'était important d'être très soignée, d'avoir de beaux ongles, d'avoir une belle tenue. Après, au fur et à mesure de l'adolescence, ça a été un peu de maquillage. Moi, j'ai eu le droit d'avoir du maquillage assez tôt. Après, c'était pas non plus maquillage extravagant, mais c'est qu'il y avait une certaine notion de coquetterie, parce que la coquetterie, c'était aussi effacer certains stigmates sociaux et laisser transparaître la meilleure image de soi. Parce que finalement, c'est toujours la première impression de soi qui fera la différence, et qu'il peut y avoir la manière de s'exprimer, mais il y a aussi la manière de se vêtir, de se comporter, de sa posture. Et ça, mes parents ont beaucoup d'attention par rapport à ça, parce qu'ils ont observé dans leur entourage ce qui fonctionnait un peu moins bien, et qui voulaient, je pense, nous retirer un frein qui était possible d'actionner. Il y a d'autres freins, du capital social, capital économique qu'on peut pas nécessairement avoir, mais en tout cas l'apparence est quelque chose sur lequel on peut avoir une influence.
Complètement. Moi, je pense que ça a été un sujet jusqu'à ce que j'ai des enfants. J'y ai prêté une attention particulière parce que je savais à quel point c'était important. Et puis à un moment, je me suis affranchie de ça en me disant je suis comme je suis. Et il se trouve que j'aime porter des baskets. Alors je prends soin de moi, hein, c'est pas le sujet, mais j'ai pas forcément la tenue qui est attendue de ma fonction, de mon rôle dans l'entreprise. Je pense que la posture doit aller à peu près, mais en revanche, pour moi, c'est important d'être alignée, que je sois alignée entre ce que je dégage, entre guillemets, ma façon de m'habiller, qui est vraiment la mienne. Ce sont des vêtements dans lesquels je me sens bien. Il se trouve que par ailleurs, ce sont ceux que je crée aussi aujourd'hui. Donc c'est important pour moi de les valoriser aussi comme ça. Et donc j'ai préféré opter pour l'utile et l'agréable plutôt que les codes vestimentaires, les codes sociaux, etc. Et c'est vrai que on parlait des cheveux. Je vois à quel point ça génère des attitudes étonnantes. Le fait d'arriver coiffée comme je le suis aujourd'hui, c'est-à-dire les cheveux sont à peu près accrochés dans un élastique, mais je peux faire beaucoup mieux en termes de volume, etc. Ça génère systématiquement en temps de elle n'est pas sérieuse. Elle est sans doute un peu fofolle. En fait, non, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on attrape trop de il y a trop de choses qui sont aujourd'hui accolées à notre apparence physique. Je n'ai pas de veste, alors donc je ne suis sans doute pas sérieuse et je ne vais pas pouvoir m'exprimer, etc. Je n'ai pas de talons, alors blablabla. Et ça, c'est quelque chose que voilà, je renie aujourd'hui. Ce n'est plus un sujet.
Ok. Ouais, mais c'est super intéressant de se dire, je reprends ce que vous disiez sur les cheveux, bon, moi j'en ai pas aujourd'hui, donc ce n'est plus un sujet non plus, mais le fait que le neutre professionnellement, ce soit des cheveux lisses, qui n'aient pas un frisottis de travers, ça montre aussi certaines choses. Et j'avais une autre question, cette fois-ci plus sur l'éducation, parce que vous aviez parlé du fait que vous étiez toutes les deux de banlieue parisienne, non pas forcément la même, mais dans quelle mesure vos parents vous ont aussi donné accès à un capital social qui vous permettait justement de continuer cette intégration dont on parlait tout à l'heure. Toi, tu m'as parlé de patinage artistique avec Philippe Candeloro quand on s'était vu. Je veux bien que tu nous en dises plus. Et Farah aussi, tu m'avais beaucoup dit que tes parents avaient tout misé sur cette éducation. Qui veut commencer ?
Complètement. Pour mes parents, c'était vraiment un point hyper important. Eux n'avaient pas nécessairement eu la chance, par ailleurs, d'accéder à des activités et autres. Donc, quand j'étais petite, j'ai fait du piano, j'ai fait de la musique de chambre, du tennis et du patinage artistique. Donc, il se trouve que je côtoyais des sphères qui n'étaient pas forcément les sphères que je côtoyais au collège, par ailleurs, qui était un collège classé en... À l'époque, je crois que ça s'appelait zone d'éducation prioritaire. Je crois que le nom a un petit peu changé aujourd'hui. Et donc, je faisais le caméléon en permanence pour être acceptée partout, tout le temps. Donc, c'était un exercice qui n'était pas forcément évident, mais qui était finalement, je crois que je me suis prise au jeu et c'est resté. Et donc, là aussi, dans ces sphères-là, il n'y avait pas forcément d'incarnant à l'époque. Pour celles et ceux qui connaissent en patinage artistique, on avait Souria Bonali, qui était pour moi une forme de compétence absolue dans cette discipline, mais qui a très vite été rejetée. Il y avait toute une série de choses un peu compliquées autour de cette athlète. Au tennis, il n'y avait pas encore les sœurs Williams à l'époque. Donc pareil, c'était compliqué. À chaque fois, je me disais, mais je ne ressemble pas à ces gens-là. Donc j'ai beau essayer de faire des activités, etc. Je ne vois pas de gens qui me ressemblent. Au piano, n'en parlons pas.
Oui. Oui, en plus, je pense que le piano, il y a aussi une question d'âge.
Peut-être. En tout cas, voilà, j'ai pas trouvé d'incarnant qui me ressemblait.
Alors moi, de mon côté, ce dont on avait parlé pour préparer l'épisode, c'est qu'avant tout, mes parents ont misé sur le matériel et la disponibilité. Quand je parle de matériel, c'est que mes parents, dès qu'on a eu 5, 6, 7 ans, on est très proches, j'ai 3 frères et sœurs, on a un an d'écart chacun, ils se sont dit on va acheter une maison avec 3 chambres pour qu'ils aient chacun leur espace pour travailler, pour s'isoler, avoir du temps pour soi, parce qu'ils avaient conscience de l'importance que ça a dans la scolarité, de pouvoir avoir son espace. Sans forcément eux avoir fait des études, mais ils avaient cette conscience-là, et donc ils ont tout misé là-dessus. Et moi, dès que j'ai eu, 7-8 ans, ils ont acheté leur maison, et j'avais ma chambre, et je sais que c'est assez exceptionnel, parce que moi j'avais beaucoup de camarades, donc c'était pas le cas, qui n'avaient pas cette chance-là. Également beaucoup de régulation, et c'est pas du contrôle, mais... C'est typiquement au niveau de l'ordinateur, mes parents c'était une heure chaque soir et il n'y avait pas de négociation possible à ce sujet-là. Beaucoup d'entraide entre nous, vu qu'on avait un an d'écart chacun, forcément on était amenés à s'aider les uns les autres pour nos devoirs. Après mes parents surveillaient quand même ce qu'on faisait, mais il y a un moment où il y a un décrochage qui se fait nécessairement à partir de la 5e, 4e quand on commence à faire des maths un peu difficiles ou compliquées. Mais avant tout, moi mes parents c'était une question de suivi, ils ont raté aucune réunion parent-prof, vraiment ils mettaient un point d'honneur à être tous les deux là et à venir, à poser des questions, à se renseigner. Ils posaient énormément de questions sur l'orientation, mais ça je sais que mes parents se sont beaucoup renseignés pour nous sur ces questions-là sans forcément comprendre, mais ils ont vu finalement l'éducation comme un préalable, et quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit professionnelle ou pas, parce que moi j'ai une sœur qui a fait des études professionnelles, parce qu'ils avaient conscience malgré tout que c'était la voie pour avoir le choix surtout, parce que mes parents ne m'ont jamais guidée vers un métier en particulier, ils m'ont juste dit en fait il faut étudier, quelles que soient les études, pour avoir le choix. Après, tu feras ce que tu veux, des études, pas des études, un métier artistique ou pas. Mais voilà, c'est tous les moyens qu'ils ont mis en œuvre, en tout cas, pour faciliter l'orientation. Mais dans le domaine sportif, vu qu'on est sur le domaine sportif, moi, j'ai testé plein de sports aussi, hein, qui appartiennent peut-être à des classes qui n'étaient pas la mienne d'origine, où je fais du tennis et du volley. J'ai pas été très régulière parce que moi les sports c'est pas trop mon truc, mais c'est sûr que j'étais amenée à côtoyer des personnes assez différentes de moi et que ça ouvre le champ des possibles, on va dire.
Mais super intéressant, et je file un peu ce qu'on se disait, mais pour continuer cette intégration dans le monde du travail, puisque toi, tu as une éducation, j'allais dire, sur le droit, il n'y a pas forcément beaucoup de concret. Mm-hmm. Bon, après, moi, je n'ai pas du tout fait de droit, j'ai fait une école de commerce, donc je sais que c'est différent. Est-ce que tu pourrais aussi m'en dire plus sur le mentorat et justement comment ce relais un peu parental a pu t'aider à progresser ensuite dans ta vie pro?
Le mentorat, ça a une grande place dans ma vie. C'est que j'ai fait des études de droit. Et le droit, c'est un secteur qui est assez compétitif. On ne va pas se le cacher. Surtout que moi, j'ai choisi de faire des facs parisiennes, pour ne pas les citer, la Sorbonne et Assas, qui sont réputées comme étant des facs où il y a beaucoup de compétition entre les élèves, où c'est assez difficile de s'intégrer et de créer des groupes. Et en réalité, moi, j'ai eu un déclic. C'est entre ma L3 et mon M1. J'ai fait une année de césure à Londres parce que je voulais... me reposer et tout des études hein, et voir autre chose. Et à Londres, j'ai vu un peu comment fonctionnaient les choses, qu'il y avait vraiment le côté où si tu parles pas aux personnes, mais personne n'ira te parler, mais au contraire, si tu viens leur parler, il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir. On regarde beaucoup moins les questions de diplôme ou autre, on donne quand même un peu plus sa chance. Et quand je suis revenue, je me suis dit, je vais faire des stages jusqu'à la fin, sans discontinuer, parce que je sais que c'est là où il faut que je sois. Pour me créer mes opportunités et gagner confiance en moi. Et quand je suis rentrée, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat que j'ai trouvé assez par hasard via une amie de prépa qui avait fait son stage l'année d'avant et qui m'avait dit « mais il faut que tu postules, c'est génial, ils sont très gentils, tu vas beaucoup apprendre ». Et dans ce stage-là, j'ai beaucoup appris effectivement et j'ai rencontré deux personnes qui sont toujours des personnes avec qui je suis en contact aujourd'hui, dont une qui joue vraiment le rôle de mentor en fait, à chaque étape de ma vie, qui peut être en mesure de me conseiller, de me mettre en relation avec des personnes. Rien que pour boire un café, discuter de ce qui est possible de faire, de ressenti par rapport à certains secteurs. Et ça, je trouve que c'est le mentorat, un des secteurs qui est le plus sous-exploité dans le cadre de l'orientation, parce que c'est quelque chose finalement qui a toujours existé, hein, le mentorat, mais qui est souvent happé par des personnes qui sont dans des milieux d'influence, ou en tout cas dans des milieux intellectuels plutôt élevés. Et que c'est par ça qu'on arrive à construire des chaînes de solidarité et à acquérir tout ce qui va être code, comment on rédige un mail, comment on se présente à un entretien, comment on peut écrire, je sais pas, sur LinkedIn à quelqu'un pour lui proposer de se rencontrer. Et ça, moi, je ne savais pas que c'était possible avant de rencontrer mes mentors. Moi, mes mentors m'ont dit, mais en fait... prendre le numéro de telle personne, aller boire un café. Et moi, ça m'a beaucoup surprise. Et c'est rigolo parce que des années après, j'ai réalisé que des personnes avec qui j'étais en classe prépa, à 18-19 ans, mais ils faisaient ça depuis toujours.
Ok.
Oui. Et c'est des codes, en réalité, de rencontres et d'oser, en fait, susciter la rencontre avec des personnes qui nous intéressent ou dont les parcours nous inspirent. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris, évidemment, dans mon milieu social d'origine.
Mmh. Et pour toi, Hélène ?
Alors, je rejoins complètement ce que dit Farah. Je pense que c'est une clé aujourd'hui pour pouvoir naviguer dans les eaux troubles, à la fois au moment de l'orientation, mais après, tout au long de son parcours professionnel. Il y a aujourd'hui tout un tas de structures qui œuvrent sur ce sujet. Alors, on appelle ça mentorat, parrainage, peu importe. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des structures qui se mobilisent justement pour des jeunes sans réseau, pour des jeunes issus de la diversité sociale, ethnique, culturelle, peu importe. En tout cas, de se dire qu'à un moment, quand on ne peut pas connecter, quand ce n'est pas forcément évident, on met à disposition des professionnels de différentes entreprises partenaires qui peuvent accompagner qui de Parcoursup, qui du petit mail qui va bien, qui de la connexion pour obtenir un stage, etc. Et effectivement, valider les codes. Moi, j'ai été marraine pendant 3 années par le biais d'une association qui visait plutôt les jeunes femmes. Et plutôt des jeunes femmes quartier politique de la ville ou en zone rurale. Et j'ai vu à quel point c'était compliqué, puisque, encore une fois, moi j'ai un écart d'âge avec elles qui devient important. Et donc j'ai quitté une banlieue parisienne qui a nécessairement évolué. Et donc se replonger dedans et se redire à quel point on ne vit pas les mêmes choses, à quel point on ne vit pas la même vie. On peut faire preuve d'empathie, mais on ne vit pas la même vie. Donc ça reste quand même très particulier. Et le fait de se poser 5 minutes et de se dire « Ah ok, je comprends mieux ton environnement, ta façon de travailler, tes problématiques, tes attentes, tes besoins, et je vais essayer de t'accompagner là-dedans sur des choses hyper simples, en fait, de se dire « Non, effectivement, on ne peut pas forcément venir à un premier entretien avec des baskets dépareillées ou des ongles écaillés, ça ne se fait pas ». C'est tout bête, mais aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ne le savent pas nécessairement parce qu'on ne leur a pas dit, on ne leur a pas appris. Mmh. Ils n'ont pas connecté avec des personnes qui vont leur livrer ce type d'informations. Et je trouve que c'est hyper précieux quand on cherche à commencer sa vie professionnelle. Et puis, au fil de l'eau, c'est déterminant, je pense, pour se créer des opportunités, pour rester alors, compétitif ou pas, mais en tout cas, se donner des chances d'avancer. Que ce soit en latéral, que ce soit en vertical, peu importe, en tout cas de bouger, de faire bouger ses propres lignes. Je trouve que c'est important d'être accompagné, quel que soit le mode d'accompagnement, ça me semble vraiment, vraiment important. Et c'est vrai que plus on va réussir à engager des professionnels au sein d'entreprises, de structures tierces, etc., plus on arrivera sans doute à une société peut-être plus juste, parce qu'on laissera moins de gens sur le carreau.
Ok. Super intéressant. En vous écoutant, je me pose une question qu'on n'a pas du tout préparée, mais qui est, en cherchant justement à s'intégrer, à avoir les bons codes à chaque fois dans ce milieu professionnel, et en faisant une... Je ne sais pas si on peut parler de... En devenant une sorte de transfuge de classe, comment, en fait, on arrive aussi à mieux se connaître et à s'affirmer, parce qu'il y a un peu ce risque aussi de vouloir rentrer à tout prix dans un moule et de se perdre. Je ne sais pas si c'est des questions que vous êtes déjà posées... Mais comment avez-vous fait ?
Moi, je vais prendre l'initiative de répondre. En réalité, moi, je ne me considère pas comme transfuge, mais plutôt comme transclasse. En fait, il y a un débat entre les deux notions.
Ah, ok, je ne savais pas. Pour moi, c'était la même...
En fait, transclasse, ça prend davantage en considération les migrations. C'est que finalement, la destination, elle n'est jamais définitive. C'est qu'on est amené à migrer entre notre milieu social d'origine, le milieu social dans lequel on arrive, et que par ailleurs le milieu social dans lequel on arrive n'est pas nécessairement plus avantageux que celui de quel on vient. D'un point de vue économique, par exemple, on peut totalement être freelance mais avoir un capital culturel bien plus important que celui de ses parents, et que ses parents gagnent davantage d'argent. En fait, c'est des questions de où on se situe par rapport à quelle valeur, et que finalement être transclasse, c'est être toujours dans ces migrations-là, toujours à aller d'un point A à un point B. Il y a des personnes qui vont se considérer comme apatrides de classe, parce que finalement, on n'est jamais à sa place, parce que dans sa classe sociale d'origine, on va être considéré comme une personne qui a fait un chemin différent de celui de ses pairs, et donc il va y avoir un décalage, et dans celui dans lequel on arrive, on va être un imposteur, parce que finalement on aura travesti certains codes qu'on aura appris par mimétisme, mais finalement on vient pas de ce milieu là non plus, et on nous le rappellera à la moindre occasion en cas de faux pas. Mais à titre personnel, j'estime que c'est une richesse d'être transclasse, parce que ça permet de se mettre à chacune des positions et de comprendre le vécu de personne. Par exemple, moi, je ne jugerais jamais quelqu'un qui manquerait de code, admettons, si j'étais recruteuse, parce que je sais que c'est pas évident de les acquérir, en fait, de faire preuve d'empathie et de se dire, en fait, que si une personne vient à un entretien d'embauche, je vais reprendre ton exemple, avec du vernis écaillé, c'est peut-être que personne lui a dit que ça pouvait donner l'impression que c'était négligé, sans forcément que la personne soit en elle-même négligée dans son travail. Mais ça, c'est des questions de codes sociaux, pareil pour les questions de rédaction de mails, les questions de comment on s'adresse à des personnes selon le secteur d'activité. On ne s'adresse pas de la même manière à un président de start-up, à une personne qui travaille dans une collectivité territoriale. Mais ça, si on le sait pas, si on ne nous le dit pas, on ne peut pas l'acquérir. Et voilà. Surtout ça, pour moi, être transclasse, c'est avoir la capacité d'être fluide dans sa vision des choses et agile aussi.
Alors je pense qu'on est on est complètement raccord. Je parlais de caméléon tout à l'heure. Je crois que c'est moi, en tout cas, je crois que c'est comme ça que je me définis. Je pense que quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose, enfin j'avais une forme d'ambition, j'avais envie d'être surtout comme les autres, et surtout comme les autres, mais plutôt vers le haut. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est l'effet maternité, mais moi, elle m'a transformée, cette maternité. Et donc, ce n'est plus un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, de m'affranchir d'un certain nombre d'éléments, à la fois de code, de classe, de vraiment d'être affirmée comme je suis, d'être au plus proche de mes valeurs à moi, d'être la plus solide possible et ancré là-dedans, essayer de m'affranchir du reste, vraiment. C'est aussi pour ça que je me suis libérée en quelque sorte du salariat, en assumant le fait de devenir autre chose, en fait, de ne pas être dans la norme et de tester quelque chose à la frontière de je ne sais quoi. On appelle ça slash aujourd'hui, mais peut-être ça s'appellera autrement demain. Et peu importe, en fait, mais c'est le fait de se dire qu'il y a plein de choses. Tu parlais de fluidité. Moi, ça me parle vraiment d'agilité. Le fait de se dire que, en fait, je ne sais pas si c'est le contenu qui s'adapte, mais en tout cas, voilà, d'être au plus proche de ma vibration, en fait. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour moi. C'est le sujet de mon futur podcast et c'est vraiment pour moi déterminant, vraiment.
Okay. Et comment tu trouves cette vibration ?
Eh bien, c'est tout le sujet du...
D'accord, ok.
C'est tout le sujet du podcast. En fait, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, vraiment. Je lis sur le sujet, j'écoute beaucoup, il y a des témoignages, il y a des choses assez intéressantes là-dessus. Je crois que je me connais bien. Et je crois que je m'assume, ce qui n'était pas le cas quand j'avais ton âge, Farah, vraiment pas du tout. Là, aujourd'hui, c'est différent. Je suis beaucoup plus forte, beaucoup plus audacieuse. Et surtout, je ne me soucie pas du regard de l'autre, ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans le passé.
Oui, mais super intéressant. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. Donc, je vais vous poser une dernière question. Farah, je sais que toi, tu t'investis beaucoup dans l'associatif aujourd'hui, justement, dans cette logique de propulser l'égalité des chances. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur tes activités ?
Oui.
Hélène, prépare-toi, la question arrive.
Oui, absolument. L'associatif, ça a toujours été très important pour moi. Et donc, avec Armand et Romain, on a créé une association qui s'appelle Tu feras quoi plus tard ? C'est une association d'égalité des chances et qui a pour vocation, finalement, de rendre davantage accessible l'orientation et la rendre plus inclusive. Parce qu'aujourd'hui, l'orientation, c'est un mot qui fait peur, mais qui recouvre aussi pas mal d'inégalités, que ce soit dans l'accès à l'orientation, l'information sur l'orientation, les asymétries d'information sur l'orientation selon le milieu social d'origine, qu'il soit qu'on soit de banlieue ou même de zone rurale, qu'on soit valide ou en situation de handicap. Et nous, on déploie des actions assez concrètes. Donc, on a créé par exemple un guide. On répertorie pas mal de personnes qui font du contenu sur l'orientation, que ce soit des podcasts, des TikTok et des Instagram aussi. Parce qu'il y a énormément d'initiatives, mais on ne sait pas forcément. On pense que les réseaux sociaux sont remplis de vacuité, de personnes qui parlent de maquillage ou autre, mais il y a énormément de contenus très très intéressants et qui permettent d'avoir les informations en direct, que ce soit avec des étudiants ou même des personnes qui ont fini leurs études et qui donnent des conseils après coup sur les nouveaux modes de recrutement ou en tout cas comment on fait société de manière générale. Également, on avait créé un podcast sur des profils en fait qu'on a mis en avant, des rôles modèles, on va dire, qu'on n'entend pas assez dans la société. Donc, par exemple, des personnes qui bossent dans l'associatif, des personnes qui se sont réorientées, qui ont trouvé un travail pendant la crise du Covid-19. Et donc, nous, c'est important pour nous de mettre en avant ces profils-là parce que finalement, dans la société, on met souvent en avant des personnes au profil exceptionnel et parfois inatteignable. Avec lesquels on ne s'identifie pas nécessairement. Et que pour nous aussi, l'orientation, ça passe par l'incarnation, la représentation et le fait de se reconnaître dans l'autre et de se dire que certaines trajectoires sont accessibles et qu'il suffit finalement d'avoir les bonnes informations et les bonnes cartes en main pour être libre et de s'orienter, et même de manière plurielle, puisqu'il y a plusieurs orientations, et voilà, de dédramatiser le fait de se tromper aussi.
Merci. Et toi, Hélène, je sais que toutes ces questions d'orientation, arriver à se trouver, bien se connaître, toutes les questions qu'on se pose au fur et à mesure de sa vie, t'importent beaucoup. Quels seraient peut-être des conseils ou des choses que tu aimerais faire passer avec toute la pluralité de tes activités ?
Moi, je dirais viser haut. Vraiment, se faire confiance, même quand les autres ne croient pas forcément en nous. Essayer toujours, prendre l'initiative, se tromper, c'est pas grave dans les faits, mais vraiment se laisser l'opportunité d'essayer, connecter au maximum avec des ondes positives, aller chercher la richesse de l'autre, quel qu'il soit, vraiment, et de se dire que l'autre avec un grand A peut être utile, mais alors au sens le plus noble possible, dans son parcours à tout moment. Et vraiment se connecter ouais, avec des gens qui ne nous ressemblent pas, et des gens qui font évoluer, des gens qui font réfléchir, des gens qui font se poser de nouvelles questions, des gens qui interpellent. Ça me semble important, ne pas avoir peur. Voilà, mais je crois qu'encore une fois, ça s'acquiert avec la maturité, oui. Ça s'acquiert aussi dans ces dynamiques de test and learn où on va essayer des choses, on va se tromper, on va réessayer et puis on va reconnecter à quelqu'un d'autre et ça va fonctionner, etc. Donc voilà, ce seraient les principales recommandations, et ne pas rester dans son canapé, se mettre en mouvement vraiment, se dire qu'on a une place dans la société, quoi qu'il arrive, ça me semble important. Et voilà.
Bah écoutez, merci beaucoup d'être passé au bord de la piscine.
Avec plaisir.
Pour en discuter, c'était vraiment trop chouette. Pour les personnes qui nous écoutent, le Festival de l'Apprendre est déjà terminé, mais vous pouvez certainement retrouver tous les replays et tous les enregistrements sur leur site. Et quant à nous, on se dit à très vite au bord du bassin.